cœur du Conseil économique et social de l'ONU, ce reportage vous est présenté par Hadeshiko Romondi. C'est micro et bloc-notes à la main que je prends le train ce lundi 4 juillet 2011 pour les Nations Unies à Genève. Il est 9h30. La session d'ouverture du High Level Segment commence dans la salle numéro 20. Des ONG, des ambassadeurs, des invités d'honneur, des diplomates et des journalistes prennent place dans cette grande salle de conférence ronde. Les discours d'ouverture est prononcé par M. Lazarus Kapembwe, président du Conseil économique et social des Nations Unies et représentant permanent de la Zambie aux Nations Unies. Il nous souhaite beaucoup de plaisir à l'ONU et nous explique que l'éducation a beaucoup de potentiel et qu'un gros développement est possible. S'ensuit le discours de M. Joseph Dice, ex-président de la Confédération suisse et président de l'Assemblée générale de l'ONU. Il nous rappelle que le Conseil économique et social, soit l'ECOSOC, est un des principaux organes intergouvernementaux des Nations Unies et qu'il joue ainsi un rôle très important dans la gouvernance mondiale. Le principal sujet à débattre est l'éducation. Tout le monde sait que l'éducation est extrêmement importante, aussi bien pour, je cite, l'épanouissement individuel que pour la prospérité économique. Joseph Dice rappelle tout de même qu'une nette amélioration dans l'éducation a été notée dans plusieurs pays, mais que cependant dans beaucoup d'autres États qui sortent d'un conflit ou qui sont isolés, beaucoup d'efforts restent à faire. L'éducation est un domaine où les inégalités sociales sont beaucoup trop marquées. Il précise pour terminer que la cession de fonds de l'ECOSOC doit impérativement trouver des réponses aux différentes problématiques concernant l'éducation. C'est Asha Rose Mijiro, députée secrétaire générale, qui a ensuite pris la parole pour terminer cette session d'ouverture du High Level Segment de l'ECOSOC. Il est 10h. 4 allocutions sont présentées à l'Assemblée. La première est celle de M. Gordon Brown, ex-premier ministre anglais. Il souligne dans son discours que presque 70 millions d'enfants ne vont pas à l'école de nos jours. 70 millions d'enfants qui doivent avoir accès à une éducation de base d'ici à 2015. C'est l'objectif de l'ECOSOC Council des Nations Unies. Gordon Brown nous indique que cette crise de l'éducation est la deuxième plus importante après la chute de nos banques en 2008. L'ex-premier ministre anglais sait qu'on ne pourra tenir notre promesse concernant l'éducation d'ici à 2015. On peut briser une promesse à un adulte sans trop de conséquences, mais on ne peut pas briser le rêve d'un enfant. On risquerait de le toucher à tout jamais. Une des phrases clés de son allocution serait, je cite, « We've developed some of the talent of some of the children of some of the countries. Now we need to develop all of the talents of all of the children of all of the countries. » En français, nous avons développé quelques talents de quelques enfants de quelques pays. Maintenant, nous devons développer tous les talents de tous les enfants de tous les pays. Monsieur Simon Willis, président de Cisco, Madame Irina Bokova, présidente de l'UNESCO, et Madame Juliana Rotich, fondatrice et directrice de USAID, ont également fait des allocutions. C'est à 11h que des ministres et députés du public ont pu prendre la parole pour présenter des réunions régionales de l'Asie d'Ouest, de l'Asie et du Pacifique, de l'Afrique et de l'Amérique latine et des Caraïbes. On prit la parole Saad bin Ibrahim al-Mahmoud, ministre de l'Éducation du Qatar. Shurayrat Sangbonum, députée secrétaire permanente et ministre de l'Éducation de Thaïlande. Esosimna Lexim Balouki, ministre de l'Éducation du Togo. Et Eduardo Aragundi, vice-ministre de l'Éducation d'Argentine. Nous ne nous attarderons pas cependant sur ces allocutions de ces quatre personnalités, leur importance étant moins élevée. Nous avons à partir de 12h pu assister au discours politique spécial sur le thème « Accélérer l'éducation pour tous, mobiliser des ressources et des relations de partenariat ». On prit la parole M. Erik Solheim, ministre de l'Environnement et du Développement en Norvège, M. Muhammad Nu, ministre de l'Éducation nationale d'Indonésie, M. Wendy Hawkins, directeur exécutif de la fondation Intel, et Mme Irina Bokova, directrice générale d'UNESCO et modératrice du discours. On retiendra les informations suivantes de la discussion concernant l'Indonésie. L'Indonésie a placé l'éducation comme première priorité. Pour une éducation basique, 44 millions d'enfants sont répartis dans 200 000 écoles. L'enseignement y est assuré par plus de 2,8 millions de professeurs. Il faut savoir que dans l'archipel indonésien, il y a environ 300 groupes ethniques et 750 dialectes. Le principe de non-discrimination est au centre de l'éducation indonésienne. On soulignera également le fait que l'Indonésie est prête à entrer en collaboration avec l'international pour construire ou reconstruire l'éducation et pour que chaque enfant puisse bénéficier d'un enseignement. On retiendra également du discours d'Irina Bokova les informations suivantes. Il y a 20 ans déjà, la mobilisation mondiale en faveur de l'éducation pour tous était lancée en Thaïlande. Les fondements de cette première réunion, à savoir que l'éducation est la première des richesses et que toutes les autres en dépendent, sont plus actuels que jamais. L'éducation est de plus un droit humain, la clé du développement durable. Malgré toutes les améliorations, il reste beaucoup à faire. 800 millions d'adultes sont analphabètes, 2/3 d'entre eux sont des femmes. Il faut maintenant innover urgemment afin de toucher les populations les plus marginalisées. Après une pause repas, les conférences ont repris leur cours dans la salle 20 du Palais des Nations de Genève. C'est la tant attendue Micheline Calmiret, présidente de la Confédération suisse et chef du département fédéral des affaires étrangères, qui a pris la parole pour une allocution. On en soulignera les informations importantes. La mondialisation a été bénéfique à la Suisse comme à d'autres pays. Cependant, elle a également eu un impact négatif sans précédent. Ces nouveaux risques tels que le terrorisme obligent les pays riches et pauvres à l'interdépendance, alors que le fossé entre pays riches et pauvres se creuse de plus en plus. Micheline Calmiret illustre ses propos avec l'exemple suivant. Le PIB de la Suisse est 130 fois plus élevé que celui du Mozambique. La perspective d'une société mondiale du risque se concrétise de plus en plus, ce qui, je cite, « ouvre la voie à de nouveaux modes de pensée ». Nous possédons les technologies, les connaissances et les ressources nécessaires pour surmonter les risques mondiaux. Mais ce n'est pas le cas de toutes les nations. Depuis la conférence de Rio, nous avons fait beaucoup d'efforts, mais pas assez. Micheline Calmiret pose ensuite la question suivante. Pourquoi ne pas transformer le Conseil économique et social en un conseil pour le développement durable, où l'on rechercherait un nouvel équilibre mondial? L'ECOSOC bénéficie d'un statut important aux Nations Unies. Il est l'un des 6 organes principaux. Beaucoup d'institutions traitent du développement durable, mais l'action de ces différentes institutions n'est pas toujours coordonnée. De plus, les États membres ne tiennent pas toujours le même discours. Il faut maintenant trouver une unité. À 15h, nous avons pu assister à un débat face à face des plus intéressants concernant l'éducation, les droits de l'homme et les conflits. Parmi les nombreux intervenants du débat, on retiendra l'allocution de Madame Irina Bokova, présidente de l'UNESCO, qui nous dit entre autres que les enfants ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas de place, mais également parce qu'ils ont peur que l'établissement soit attaqué. On parle alors de 28 millions d'enfants qui sont dans un pays en conflit et qui ne bénéficient pas d'une éducation même basique. Les conséquences ne sont peut-être pas visibles à ce jour, mais elles le seront sur le développement durable. L'éducation est un droit humain reconnu. Ce droit est violé dans un nombre innombrable de pays. La première priorité est donc de faire respecter ce droit, même dans les pays en conflit. De 16h à 18h, nous avons assisté aux différentes présentations volontaires des nations présentes. Ces informations étant trop spécifiques, nous ne nous attarderons pas sur ces sujets. Après une courte nuit bien méritée, une nouvelle journée au sujet plus économique commence au High Level Segment au Palais des Nations de Genève. À 10h, dans cette salle de conférence 19 rondes, plusieurs locuteurs ont pris la parole pour le dialogue politique de haut niveau en la compagnie des institutions financières. On prit la parole M. Cha Tsu-Kang, sous-secrétaire général de l'UNDESA, M. Pascal Lamy, directeur général de la World Trade Organization, Monsieur Supachai Panichpaki, secrétaire général de l'UNCTAD, Monsieur Tsumin, adviseur spécial au directeur de management de l'International Monetary Fund, et Monsieur Ottaviano Canuto dos Santos Filho, vice-président à la réduction de la pauvreté et au management économique à la World Bank. Les informations principales de ces prises de parole sont résumées dans le discours de M. Zhu Min, que vous trouverez sur notre site www.radioshiko.ch, rubrique Romandie, ou sur le site officiel de l'ECOSOC. A ensuite eu lieu le débat général de haut niveau. Sont intervenus les pays suivants: l'Argentine, la Pologne, la Slovaquie, la Namibie, le Luxembourg, le Japon, la Bulgarie, la Fédération russe, le Sri Lanka, les Philippines, la Finlande, la République de Lettonie, le Chili, la République d'Estonie, les États-Unis, le Mexique et les Bahamas. La Pologne souligne le fait que l'éducation est à la base de toute société. Le premier objectif est de stopper les inégalités face à ce droit humain. Le second est la qualité de l'enseignement. Le troisième est le manque d'écoles post-primaires. La Namibie, quant à elle, met en évidence que tout système scolaire repose sur des valeurs qui sont l'accès, l'égalité, la qualité, la démocratie et l'efficacité. Le Japon nous remémore la catastrophe ayant eu lieu en mars. Il précise que le pays a besoin d'une économie solide et stable. Il faut pour cela la stimuler. Le Japon compte beaucoup sur l'éducation pour reconstruire l'avenir du pays. Ces discours ont été les trois plus marquants du débat. Vous trouverez les autres discours sur notre site internet www.radioshiko.ch, rubrique Romandie, ou sur le site officiel de l'ECOSOC. Les conférences se terminent, il est 18h. Dans les couloirs et le hall d'entrée du Palais des Nations, j'ai eu l'occasion de rencontrer des ONG, organisations non gouvernementales. Je vous propose d'en découvrir trois durant ce reportage. Terre des Hommes avec Madame Paula Eger, SAD, Swiss Academy for Development, avec Madame Valeria Kunz, et WISE avec Madame Mary McDavid. Les interviews suivantes ont été enregistrées les 4 et 5 juillet au Palais des Nations de Genève. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter?
Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Eger Paula. Je suis à la Fédération internationale de Terre des Hommes. Donc, le stand ici qu'on représente, c'est toutes les organisations de Terre des Hommes qui existent. Et plus précisément, nous avons trois projets de Terre des Hommes Allemagne qu'on présente ici, qui ont trait à l'éducation.
Et mon nom est Valeria Kunz. Je suis projet manager à SAD, c'est l'Académie suisse pour le développement, ou en anglais Swiss Academy for Development. Et je suis responsable pour un projet au Népal.
Okay, I'm Mary McDavid. I am from the Qatar Foundation for Education, Science and Community Development. This is based in Doha, Qatar, the capital of Qatar. And I'm here because one of the initiatives of our foundation is called WISE, the World Innovation Summit for Education.
Alors, vous avez aujourd'hui un stand ici aux Nations Unies à Genève. Vous avez été invité, ou pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous attendez de cette journée?
Ok, nous avons été invités en fait par ECOSOC, donc pour la deuxième fois pour participer à cette Innovation Fair. Cette année, c'est le sujet de l'éducation, donc des projets innovatifs dans le domaine de l'éducation. Et à cette occasion, nous avons présenté ici à notre stand trois projets principalement. Donc je vais brièvement vous les décrire. Derrière moi, c'est un projet en fait qui a trait à la diversité culturelle dans les Andes péruviennes. Donc Terre des Hommes Allemagne, donc une de nos organisations membres, a monté ce projet au Pérou. Et ce projet, en fait, c'est une alternative à l'éducation moderne, si vous voulez. Ou bien, en fait, ça combine l'éducation moderne et l'éducation traditionnelle. Donc, en fait, le projet, il veut tenir compte, justement, du savoir et du savoir-faire culturel qui a été transmis de génération en génération et qui ne s'apprend pas à l'école. Donc, ce qui se fait dans ce projet, c'est, par exemple, on invite à l'école donc de la population indigène, en fait, des personnes plus âgées qui transmettent le savoir aux enfants, le savoir et le savoir-faire. Par exemple, comment cultiver les pommes de terre? Quel type de pommes de terre? Il y a 250 types de pommes de terre, par exemple. Donc, il faut savoir quand les planter. Tout ce savoir avec la terre, en fait, ils apprennent aussi le respect vers les montagnes, vers la terre, etc. Tout ça, ce qui était transmis justement des populations indigènes est appris aux enfants. Ils ont une partie pratique aussi, ils peuvent après planter, ils ont un petit jardin, etc. Et tout ça, néanmoins combiné avec l'éducation moderne. Donc ça, c'est un projet innovateur et il a vraiment beaucoup de succès parce qu'on a vu, c'est un impact tout à fait positif. Par exemple, ça rapprochait les générations. Avant, il y avait comme un clivage. Les vieilles personnes se sentaient vraiment mises à l'écart. Et puis, ils se disaient, voilà, les jeunes, ils nous parlent plus, ils apprennent plus ce qu'il faudrait. Et là, ça a vraiment eu un impact pour la communauté, pour la société, très, très positif. Donc ça, voilà, il y a un calendrier de... je voulais vous dire, on apprend aussi la langue indigène, le quechua, par exemple, au Pérou. Et ce projet s'appelle donc Iscai Yachai. C'est donc en langue quechua et ça veut dire double savoir, c'est-à-dire voilà, le savoir ancien et le savoir moderne.
On a été invité du ECOSOC Council de présenter un de nos projets ici. Et c'est une très bonne opportunité pour nous de gagner plus de visibilité avec nos projets et de aussi partager notre approche dans ce projet-là avec d'autres gens. Il y a beaucoup de gens ici, des ONG, des organisations qui travaillent dans le domaine du développement. Alors c'est une très bonne opportunité de les rencontrer et de discuter des approches effectives. Alors c'est un projet dans le domaine d'éducation au Népal. On essaye d'intégrer des enfants des familles très marginalisées dans l'éducation. C'est des enfants qui normalement n'iront pas à l'école parce que les parents sont trop pauvres. C'est des enfants aussi des groupes ethniques très marginalisés ou des castes basses dans le système des castes au Népal. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de les préparer dans des cours qui durent 9 mois, de les préparer dans une manière joueuse pour aller à l'école plus tard. Alors, on a travaillé avec des jeunes professeurs que nous avons recrutés des villages locaux. C'est une région très rurale au Népal où on travaille. Alors on a travaillé avec les jeunes là, des villages, et les ont montré comment eux, ils peuvent travailler avec les enfants dans une manière joueuse et les motiver pour apprendre et pour aller à l'école plus tard.
There are many details about it, so the first thing I would do for you and your colleagues of your generation, I know how... web savvy you are, so I would say you could go to our website www.wise-qatar.org. But I'll tell you a few important things about WISE. WISE is a very interesting initiative because it's different. It's global. It's global because our world is global. Our world is small now. And so last year we had more than 110 nations participating in WISE. It's multi-sectoral because education isn't just for teachers and students, but it's for the community leaders, it's for the business leaders, it is for the members of the media like yourself. It's also for people who are innovators, and it's for the NGO community, nonprofits. So it's for everybody. Innovation is the middle name of WISE. It's the World Innovation Summit for Education. So we try to do things and to promote what is innovative and what works for education. The idea behind WISE was one that the chairperson of Qatar Foundation had, a lady named Her Highness Sheikha Moza bint Nasser. She's very involved in education herself with the United Nations as a special envoy, working toward the achievement of the Millennium Development Goals for education, education for all. So she thought it's important to have a place to bring people together to focus on education. But it should be, as I said, multi-sectoral, and it should involve people from all around the world. so that we can all come together, share ideas, learn from each other, and move forward to improve education from there. So that's the basic nutshell of it.
Une dernière question, plus sur l'ONU en général. Est-ce que vous pensez que l'ONU joue un rôle important dans l'éducation aujourd'hui?
Oui, alors l'ONU, c'est vraiment en fait un forum unique, pour dire ainsi, où tous les États, enfin voilà, avec 192 États membres, où c'est vraiment une plateforme où tous les États membres sont représentés. Donc en fait, il y a beaucoup de chances dans l'ONU. Moi, je pense que elle est importante parce que les pays ont quand même pris en fait des décisions, ils ont été d'accord, enfin voilà, ratifié des conventions, donc en fait ils se sont engagés à vraiment appliquer ce qu'ils ont signé, à quoi ils se sont engagés. Oui, donc à mon avis oui, c'est très important parce que justement après c'est toujours au pays de mettre en pratique bien sûr, mais l'ONU peut, et je crois beaucoup, elle peut jouer un rôle important. C'est toujours après bien sûr l'application qui compte, mais déjà la conscience, le fait que les représentants viennent et ils sont conscients de voilà, de, ils s'engagent, c'est public, je pense que c'est un point important.
L'ONU, c'est certainement une plateforme importante où de gens de tout le monde, des gouvernements, des ONG se rencontrent et peuvent discuter des thèmes urgents. C'est difficile dans le cadre de l'ONU de faire vraiment des innovations, alors de trouver vraiment des approches innovatives parce que c'est un système très compliqué et très lié aux politiques nationaux et tout ça. Alors c'est peut-être plutôt le rôle des ONG de faire des innovations et de montrer comment on peut atteindre les buts qui sont décidés à l'ONU plus effectivement.
That's a very good question. I have to say that we are always seeking common solutions to common problems. Last year at WISE, we had the pleasure of inviting ECOSOC to come to WISE and to sit together in a special session for a few hours and share their ideas back and forth. So we like to encourage this kind of effort. And it also helps underline one of the basic thrusts of WISE, which is that WISE is very action-oriented, very results-oriented. You can see that in the WISE Awards, and you'll see it in the WISE Prize.
Pour plus d'informations sur ces trois ONG, à savoir Terre des Hommes, SAID et WISE, rendez-vous sur www.radiochico.ch rubrique commandier. Vous y trouverez des liens vers les sites officiels de ces organisations. C'est la fin de ce reportage à l'ONU. Je vous remercie de votre attention. Romain Golet, Radio Chico Romandie, Palais des Nations, Genève.